Calmons-nous, calmons-nous. Congé de 3 jours qui s'en vient, les amis. Dimanche, samedi, lundi, on dit pas ça dans l'ordre. Audrey Pinchot, qui a de l'air très excité aujourd'hui.
Oui, c'est une...
Toute la station a de l'air excitée. Vous m'avez fait jouer un jeu un matin, le Mary Kill Fuck. J'avais jamais entendu parler de ce jeu-là.
Pour vrai, devrait t'as jamais, jamais joué à ça.
Non, puis en même temps, si vous faites ça sur votre lieu de travail, ça se peut que vous vous créez des ennemis. Là.
Ben, ça s'est déjà joué.
Qui tu vas marier, qui tu veux faire l'amour et qui tu veux tuer.
Exact.
Puis là, vous avez posé ces questions-là ce matin.
Ben, c'est parce que genre, on n'en revenait pas que tu ne connaissais pas ce jeu.
C'était plus facile de tuer
jeu-là.
La personne. Quand c'est tes collègues, c'est plus facile de tuer quelqu'un que de dire le reste.
Oui, mais il y en a pour qui c'est insultant. Il y en a qui ont beaucoup d'amour propre et qui aimeraient ça être mariés ou baisés, finalement, je veux dire.
Ouais,
comme
j'ai
ça.
Dit que je marierais Véro.
Oui, non, mais c'est ça.
Pour son argent.
Oui, c'est ça, exact. Ça doit être pour ça.
Elle était un peu insultée, effectivement.
Mais est-ce que c'est un jeu que vous jouiez, vous autres, au secondaire? Nous autres, on avait toutes sortes de jeux de même, de boissons, de soirées, puis ouais. Le Mary Kill Fuck en faisait partie.
OK. Moi, j'ai pas joué à ça. Nous autres, on jouait à des jeux extrêmement dangereux. Puis les gens de ma génération vont s'en souvenir. Là. On se mettait en... On faisait un genre de conditionnement. Tu respirais super fort, puis après ça, tu te coupais toi-même ton arrivée de sang là, à la hauteur du cou. Puis tu perdais connaissance. J'ai aucune idée pourquoi on faisait ça.
Ça, c'était le fun, dans le fond?
Ouais. C'est comme si on se mettait en hyperventilation, puis après ça, on s'étouffait nous autres-mêmes, puis on partait dans les pommes pendant 15-20 secondes. Hey, on était pas vieux, là. On était...
Ça créait-tu un buzz? Ça créait-tu quelque chose?
Vers la fin du primaire, je me souviens pas. Moi, je me souviens de l'avoir essayé une fois, puis j'avais trouvé ça un peu con. Mais je me souviens qu'un de mes amis avait fait comme une genre de truite à terre, puis on savait pas s'il niaisait. Il y en a qui disaient qu'il rêvait, qu'il avait le temps de rêver dans ce fameux 3-4 secondes où il tombait dans les pommes. Là. Il avait le temps de rêver. Fait que tout le monde l'essayait. Y a-tu des jeux qu'on faisait? On jouait à bouteille. As-tu déjà joué à bouteille, vérité, conséquence?
Oui, on a joué beaucoup à la bouteille au cégep.
Ça, quand ça tombait sur une fille qui avait des broches, là, puis elle choisissait conséquence.
Oh, franchement, hey, c'est pas parce que t'as des broches que t'es mal propre, hein? J'en ai eu pendant 3 ans.
Ouais, voyons, ça va, Audrey?
Je suis susceptible un matin, hein?
Mais non, mais on avait 8 ans, 9 ans.
Ça vous écœurait? Je sais pas pourquoi je suis susceptible un matin.
Je sais pas si ça vous écœurait. Je dis 8, 9 ans, c'est un peu jeune. Je pense que j'ai été autour de 10, 11, 12 ans. Puis là, on jouait à bouteille, puis là, la fille avait des broches. Puis là, tu disais, si je l'embrasse, je vais te sortir de là la gueule fendue.
Oh mon Dieu, Seigneur.
Ouais. Ouais, ouais.
Mais non.
Il y a personne qui t'a déjà fait cette joke-là pendant que t'avais des broches?
Ben, on m'appelait. Est-ce que. C'est pas de ton époque, mais est-ce que t'as connu Sourire d'enfer?
Est-ce qu'on t'appelait les dents de la mer?
Non. Non, mais Sourire d'enfer, c'était des petits bonhommes à TV, OK, quand j'étais jeune.
Ouais.
La fille était blonde, elle avait des broches, puis en gros, elle se faisait repousser constamment parce qu'elle avait des broches, tu comprends?
OK!
Fait que je me faisais appeler Sourire d'enfer quand j'avais les dents tout croches dans la bouche, j'avais le palais, moi, rétréci. J'avais vraiment pas un beau bas de visage avant d'avoir des broches.
C'est vrai?
Fait que, ouais, non, ben oui, on m'écœurait, mais toute personne qui a des broches jeunes se le fait dire, là. En plus, t'as des élastiques de couleur dans la bouche, pas subtil.
Nous autres, il n'y avait pas de couleur. Je me souviens qu'il n'y avait pas de couleur, puis effectivement, les couleurs sont arrivées un petit peu plus tard. Je regarde Sourire d'enfant. OK, c'est une bande dessinée, Sourire d'enfant.
Oui, oui, c'est des petits bonhommes qui passaient à la TV. Le pire, c'est que j'adorais cette télésérie-là.
Je me souviens pas de ça.
Ah, mais c'était
mais
bon, là.
Je reste qui je suis. Sourire d'enfer. Ma vie devient compliquée.
Oh mon Dieu, je reviens en arrière.
Wow.
Est-ce que tu sais c'est quoi 16? Mets le générique de 6 T-E-E-N. Ça, 16, là, ça jouait à peu près peut-être une demi-heure après Sourire d'enfer. Là, ça jouait en même temps. Là. Puis ça, c'était l'autre série qui me faisait triper. Puis ça, c'était une bande d'ados.
Fait que 16.
Ouais, 16, le générique français. Là. J'ai 16 ans.
C'est vraiment ado. C'est ça?
Oui, ça, c'est en anglais. Moi, c'est en français que je l'écoutais à TV, la VRAC TV. Là.
Français. Français!
Ah, puis pour ceux qui ont connu ça, je veux dire, la toune, on la chantait toute. Là. C'était cool. Là.
Ouais, je pense que je l'ai ici. Voilà.
Ah.
Je suis vraiment super en retard dans mes achats de printemps.
OK, moi, c'était pas ces bandes dessinées-là.
C'était pas la toune du générique, mais tu sais, ça fait partie vraiment des affaires que j'écoutais, puis on s'écœurait là-dessus parce que tu te comparais à des personnages, tu sais. Fait que sourire d'enfer, je me suis fait appeler de même. Moi, j'étais tout le temps la pas cool dans la gang, là. J'ai jamais été la cool.
Mais là, t'es la cool aujourd'hui, non?
Je suis pas une cool. J'ai jamais
t'es
été
pas une cool.
Cool.
C'est oh, quoi non, être non. une cool?
Mais je sais pas, il y en a qui l'ont. Tu sais, qui ont comme la latitude. Toi, t'as l'air d'un cool.
Non.
Oui, non, mais t'sais, tu sais,
y a est-ce que tu penses que les gens qui sont cool pensent qu'ils sont cool? Moi, je pense que toi, t'es cool. Mais t'as pas l'impression que tu l'es.
Ben, sais-tu quoi? Là, t'apportes un autre point. Non, mais il y a des gens,
je pense... C'est-à-dire, on finit à 11h30.
Il y a des gens, et puis ça va être long, ce show-là, je te dis, j'ai en tête mêlée aujourd'hui. Il y a des gens qui gagnent à être découverts, je pense. Mais tu sais, au secondaire, t'as les gens qui ont peut-être, je sais pas, plus de confiance ou qui s'assument plus, sont cool en partant. Ils ont l'attitude qui vient avec. Je pense qu'ils savent qu'ils sont cool.
Ah ouais.
C'est des gens qui s'en foutent un peu. T'as ça, toi, tu te fous un peu de ce que les gens pensent.
Oui.
Tu fais ta vie, tu sais.
Oui, mais c'est avec l'âge.
Peut-être, mais il y en a
vieillis,
qui l'ont
plus
tôt.
Plus tu dis, attends un peu, là, vivre ma vie dans le regard des gens, c'est un cauchemar jusqu'à la fin de mes jours.
Ouais.
Puis on dirait que tu switches. Puis c'est arrivé vers, je te dirais, 40 ans peut-être. Tu sais, que je me suis totalement foutu de ce que les autres pouvaient penser de moi. Alors
c'est
qu'avant,
récent, quand
c'était super important. Ben, c'est très récent. Moi, ce que j'écoutais quand j'étais jeune, E-Boy. T'en souviens-tu de ça?
De demain, ça ne me dit rien. Ah, oh, mon Dieu, ben oui, les pierres à feu. Ben oui. Le moment préféré de mes matins, c'était de prendre ma vitamine, pierre à feu.
Et on écoutait ça, puis ça date de 1960, les pierres à feu qui ont commencé.
C'est fou, hein?
Puis à tous les jours, quand t'arrivais à l'école, quand t'arrivais à la maison, parce que tu devais aller arriver à la maison, c'était à midi que ça jouait.
J'ai écouté ça un bon moment.
Pile, c'était les pierres à feu qui étaient là.
Mais tu sais, ça n'a pas fait partie. Je pense que, tu sais, il y a les émissions que toi, t'apprends à aimer plus tu vieillis, puis les émissions que tes parents aussi écoutaient puis veulent te transmettre, là, tu sais. Pierre à feu, je me souviens plus si j'écoutais ça par moi-même ou si c'est mes parents, mettons, qui me mettaient ça.
Probablement que tu l'as écouté sur le tard. Ça devait être sur un canal là, de bande dessinée.
Genre, là. Ouais. Ouais, mais ça ferait du sens parce que ça, j'ai beaucoup écouté les pierres à feu. Les Lucky Luke. J'ai beaucoup écouté ça.
Astérix Obélix.
Ah, mais oui. Ça, mes parents étaient complètement fans. Ça, puis Tintin. Mon père capotait sur Tintin, puis les bandes dessinées de Tintin. Ma mère, c'était les Astérix. J'offre encore à ma mère, des fois, des bandes dessinées Astérix Obélix. Vraiment une grande fan. Mais sinon, ça a été peut-être des affaires que tu connais moins. Le Clifford, le grand chien rouge, là. Ça a fait partie des affaires que j'écoutais beaucoup jeune.
Clifford.
Clifford. Et j'avais même le toutou Clifford. C'était un Golden Retriever rouge.
Ouais.
Puis écoute, c'est un chien qui était gros, géant. Ils ont fait un film il y a une couple d'années en version vraie, là.
Si je te fais entendre ça, ça te dit-tu quelque chose?
C'est
Castor,
ben oui.
Le plus petit, mais le plus fort. Et oui.
Dans la forêt, au milieu de tous ses amis.
Maman m'a fait écouter beaucoup Franck Freluche aussi.
Hey, j'avais 7-8 ans.
Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter.
Ah, oh, c'est belle fun, cette nostalgie-là,
ben
matin.
Ben oui. Ben j'ai vu que t'avais pas l'air super de bonne humeur.
Oh! Mais tu vois comment c'est facile à changer? Hey, 9-7 ans, qu'est-ce
tout
que vous
tout ça est parti d'une pub qu'Audrey a dit « Non, moi, ça me tente pas de faire ça. » Moi, je m'en sac, là. Je veux dire, c'est juste prêter ma voix. « Oui, mais là, moi, là, ça va pas, je veux pas le faire! » Ben non, j'ai juste dit que moi, je pourrais le faire. Je m'en sac, c'est juste une voix.
Non, mais...
Il y a des matins comme ça.
C'est ça, regarde. Ça serait trop long à expliquer. Il y a des matins comme ça. T'as raison.
On se demande pourquoi les filles préfèrent travailler avec les gars. Nous, on le sait.
Oui, c'est ça.
Ça dit quelque chose?
Hé, je suis pas sûre.
Ça, c'est 1978.
C'est Albator? C'est C'est-tu Disney?
Non. C'est La Forêt Verte.
Hé, hey, ça me dit rien pantoute.
T'as jamais écouté ça?
Zéro. Ça, là, ça me dit rien de rien de rien de rien.
Un qui est encore plus loin. Je sais pas ça. D'après moi, t'as jamais entendu ça de ta vie. Ça dit-tu quelque chose?
Vite de même, non, t'as vu?
Gentil petit Déméthane. Gentil petit Déméthane.
C'était Déméthane, la grenouille?
Non, ça, ça me dit rien non plus. Quelle année, ça? Ta petite
camarade. C'est probablement que ça a été fait fin 70, mais moi, je les écoutais comme dans le milieu de 80.
Plus tard. La fille de Kiata. Le méchant. T'as écouté les Schtroumpfs?
Oui, ben oui, les Schtroumpfs.
J'ai été une énorme fan des Schtroumpfs.
Gargamel, c'était mon préféré.
J'en doute pas. Je m'identifiais à blonde, tu comprendras, la Schtroumpfette.
C'est vrai?
Mais, hey, mon Dieu, j'aimais tellement Schtroumpfette. Je
trippais sur la Schtroumpfette?
J'adorais Schtroumpfette. Probablement parce que c'est la seule à laquelle je pouvais m'identifier plus jeune aussi. Il n'y a pas de raison particulière, mais j'aimais vraiment, vraiment les Schtroumpfs.
Ça, ton père a dû écouter ça quand il était jeune. Moi, j'ai pogné la fin de ça. Ça dit-tu quelque chose?
Non, pas à date.
Ça te rappelle rien?
Ah, mais ça, c'est Albator.
Albator.
Oui, c'est ça.
Quand le générique partait, je virais complètement fou.
T'aimais ça. T'as-tu la toune de Franfreluche pas loin?
Franfreluche?
Oui, Franfreluche va vous raconter une histoire. D'ailleurs, l'actrice Kim Yaroshevskaya, je ne veux pas la débattre.
Elle était bonne.
Elle a eu 101 ans. C'est-tu la semaine passée?
Oui.
C'est complètement fou, cela. Mais tu sais, ça aussi, Franfreluche, il faut dire que je sais, c'est vraiment, vraiment pas de mon époque. Là.
Franfreluche va raconter un beau conte à sa manière.
Ta mère te faisait écouter ça, être donc bien cute de t'avoir fait écouter ça.
Mais je sais pas si c'était encore une fois à travers ses souvenirs. T'sais, je pense que des choses comme parents que tu veux comme transmettre. Mais ça, ça a commencé en 68. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a été pendant 3 ans, Franfreluche. Ça a quand même marqué les esprits, par exemple. On a des gens qui nous parlent des joyeux naufragés dans ce qu'ils écoutaient plus jeunes.
Joyeux naufragés, ben oui, c'était à la télé.
Ça me dit quelque chose. C'est ça? C'est quoi ça?
6 canards, 7 fourbus, 4 chats et 3 poussins, 2 belettes et 1 souris.
Une souris verte.
C'est bien drôle, mais ça, peut-être ma mère avait une garderie. Peut-être que c'est juste qu'elle l'a chanté, fait que ça m'est entré dans la tête.
Mais c'est
là.
Ça, elle vous faisait jouer ça.
Ah, mais oui, ma mère avait une garderie, fait qu'on a entendu toutes sortes d'affaires. Là. Il y a eu la grande époque Annie Brocoli.
C'est Annie Brocoli. Hey boy, c'est là que ça a commencé à crasher.
Oui. Je connais les tunes par cœur d'Annie Brocoli encore. Carmen Campagne.
Celle-là, ça dit-tu quelque chose?
Le 16e siècle.
Ah, je pense qu'on l'aura
oublié. Des quatre coins de l'Europe. De gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains?
Ça dit-tu quelque chose?
Mais le vide de même, non? De légendes,
ou d'une richesse
je pense que dans ma tête, ça va être full connu, puis...
Quand ça va partir,
le... Enfant du soleil! Qui ne jamais souhaité voir le soleil pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or?
Mais ça, c'est des années 80, genre.
C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or.
C'est ce que j'écoutais quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi ta tune me fait penser à ça.
C'est quoi?
Kirikou. C'est quoi Kirikou?
Ça s'écrit comment, ça?
K-I-R-I-K-O-U. Kirikou, là, c'est un petit bonhomme tout nu.
C'est Kirikou.
Kirikou. Ouais. Il y a eu des films, je pense, là-dessus.
On mélange les générations en passant.
Mais oui, mon Dieu, mon Dieu. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça?
Non.
Kirikou est petit, mais il réfléchit.
Ça joue à tes yeux. Je t'ai côté.
Mais il réfléchit.
J'aime bien ça.
Kirikou n'est pas grand.
Mais il est vaillant.
Kirikou n'est pas grand.
Non, c'est ça. Non, ça j'aurais, j'aurais pété à la télé.
T'aimes pas ça?
Eh, non, c'est sûr que non.
Oh mon Dieu.
J'essaie de me souvenir comment elle s'appelait. Au pays de Candy, ça se peut-tu?
Ah mon Dieu, ben oui, ça, ma mère a beaucoup écouté ça.
Au pays de Candy?
Ça, elle a, écoute, ma mère et ma tante, puis ça fait partie de l'héritage, là, la chanson. Là.
Ah oui?
Ah oh, oui. Mes
votre
cousines la connaissent, là. Oh oui.
C'est à vous autres,
ça. Oui, c'est notre héritage. Au pays celui de personne d'autre.
De Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy.
C'est cœur.
Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse.
C'était quoi ma chanson préférée quand j'étais jeune? C'était Carmen Campagne.
Mais voyons donc.
Ma vache, là. Je suis sûre que tu vas de tirer ma vache.
Mais je pense pas que ce soit sa toune à elle.
C'est-tu... Non!
Non.
C'est qui
parce
de bord?
Je me souviens que j'étais au parc quand j'étais jeune, puis on chantait ça.
De tirer ma... Oui, c'est elle, la vache à l'école. C'est ça la toune, la vache à l'école, Carmen Campagne.
Mais avant Carmen Campagne, on chantait ça.
Ça se peut,
c'est une reprise.
Oui, ça se peut que ce soit une reprise. Elle a fait juste ça, des albums de tounes d'enfants. Là. Je peux trouver qui le fait originalement. Pas capable de tirer ma vache.
Le... Hey, je sais pas. Celle-là, je vais vous la faire entendre. C'était pas une bande dessinée, mais ça, ça me rendait triste. Là. Vous avez pas idée à quel point ça me rendait triste. Ça dit-tu quelque chose?
Pas comme ça, évidemment.
Il est une voix qui m'appelle et m'attire. Au fil des routes, je l'écoute et la suis. Quand je m'arrête, c'est pour me faire des amis. Je peux pas rester quand le sourire, il faut partir.
Pourquoi ça te rendait triste?
Il se peut qu'un beau jour, je me repose enfin. Jusqu'à ce jour, je poursuis mon parcours.
Je pense que la personne qui chantait ça, c'était Gilles Rivard à l'époque. Mais pourquoi ça me rendait triste? C'était un chien qui rendait service à tout le monde, mais il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de chez lui. Puis il se promenait tout le temps de ville en ville pour aider le monde.
Oh.
Mais ça, on écoutait ça pas mal. Une qui va vous rappeler énormément de souvenirs. je ris tout seul, ça n'a pas de bon sens. Là. Je rends un enfant de 5 ans.
Vas-y donc.
Ça dit-tu quelque chose?
Ben, on dirait qu'un peu, mais je suis pas sûr.
Ça te dit rien.
Skippy?
Skippy.
C'est pas un kangourou, ça?
C'était un kangourou. Ouais.
Mon Dieu, mais ça, j'ai pas tant écouté ça, là, pour être très franche. Là.
Après ça, là, ça va être la dernière parce que je pense qu'on a un invité qui s'en vient.
Oui!
Mais je sais pas si on se fait plus plaisir à nous autres qu'aux auditeurs.
Mais, là. Mais non, mais les gens embarquent.
418-971-1021, mais vous, ça, ce genre d'affaires-là, peut-être
en
qu'on
passant,
pourrait le faire une fois de temps en temps.
Il y a Stéphane qui nous partage ça, puis moi, je suis abonné à ces affaires-là. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Souvenir Jeunesse.
Ouais.
Si jamais ça vous intéresse, là, c'est toutes sortes d'affaires comme ça qui sortent des vieilles émissions de jeunesse. Moi, j'écoutais beaucoup Scooby-Doo, Tiber aussi. Puis souvent, on va faire des mimes ou des affaires avec tout ce qui touche notre enfance. Puis il n'y a pas un public cible particulier, on tire partout.
OK. J'en ai deux à te faire entendre. Celle-là me faisait tout perdre. J'étais très jeune, puis mon rêve, c'était d'aller faire ma vie dans le bois.
OK.
Daniel Boone, pas la série, la récit, la légende et l'histoire de Daniel Boone. Le couteau couteau à la main, la fourchette au petit
l'Amérique.
Ça, c'est plus fucké, on s'en souvient.
Daniel Boone, c'est son nom.
On fait triper le monde bien raide en passant, hein, ça texte, là.
Daniel Boone, c'était hallucinant aussi.
Avec son casque de poêle.
Après ça, j'en ai un autre. Ça va être le dernier. Je sais pas si ça va te rappeler quelque chose. J'ai générique ici.
Des petits bonhommes qui t'écoutaient plus jeune.
C'était pas des petits bonhommes. Moi, j'ai pogné. J'écoutais pas mal des émissions pour adultes aussi. Puis celle-là, c'était une émission pour les ados puis les adultes, mais j'étais assez bébé, là. Ça dit-tu quelque chose? Si je fais...
Mais le beat en arrière me dit quelque chose, mais...
Dans un monde dangereux, le chevalier et sa monture.
Ah, non, ça me dit pas... Le beat en arrière a été réutilisé dans une tourne, en tout cas, là. K2000.
Des temps modernes.
Les auditeurs qui t'aiment.
Ben oui, absolument. Là, je peux pas prendre crédit là-dessus. Là.
Victime d'un monde cruel et impitoyable.
T'as-tu écouté La petite maison dans la prairie?
Oui.
Ça revient une couple de fois dans les textos aussi. J'ai écouté ça également.
Attends un peu.
Petite maison dans la prairie.
Je l'ai-tu ici? Ouais, je l'ai ici. Ah non, excuse-moi. Il est ici. 1974.
Oh!
Les Ingans. Ça a l'air, j'étais un peu déçu parce que plus tard, on a su un peu la vie de l'acteur qui incarnait le rôle principal. C'était pas un monsieur qui était super gentil.
Oh non, hein?
Non. La petite fille qui courait dans le champ.
Ouais. Tiber, ça te dit rien?
Tiber, non.
L'ours?
Non.
Ah, c'était bon, ça. Il parlait à la lune, sur son balcon. C'est le même qui disait bonne nuit.
Il parlait à ça. À la... il
y a ouais.
Écoute, il y a...
Tiber et la maison bleue, que ça s'appelait. Là, c'est vieux, là.
OK. Je vais te faire entendre une pub, moi. Qui virait comme pas possible, puis que je me souviens encore aujourd'hui. Puis ça, ça passe encore aujourd'hui, là, puis je pense que ça réussit encore à convaincre des gens de faire attention. Écoute ça.
Astor, un robot. Moi, je peux remettre mon bras, vous pas. Jouez prudemment.
Oh mon
hey, c'est
Dieu!
C'était dans les années 80, ça. Puis je sais pas quand ça leur avait coûté combien, cette publicité-là. Mais aujourd'hui, tu dirais encore, waouh, c'est donc bien fait, là. T'sais, c'est bien fait.
Mais quand même, pour vrai. Ah, c'est un beau tour, sérieusement. Oh. Puis vous êtes allumé ce matin, c'est le fun.
Es-tu plus de bonne humeur, la mère?
Hey, oui, je suis de bonne humeur.
Ah, oui,
là, faut que t'arrêtes de me dire que j'étais de mauvaise humeur parce que tu vas me rendre de mauvaise humeur. C'est tricky, ça. Là. Fais attention.
Non, mais t'étais de mauvaise humeur.
C'est vrai que mais je te le donne. T'as raison, OK?
Tu l'étais tout, tu l'étais pas?
J'étais irritée.
Tu l'étais.
J'étais pas de mauvaise humeur.
Avoue, tu l'étais.
J'étais irritée. Voyons, mais tu me claques par la tête.
Fortune Cookie Club, It's Sal sur Boulevard, on revient après ça.
Aujourd'hui aux nouvelles. Le Quickie News de Max.
Excellente journée québécoise. D'une autre annonce sur le troisième lien Québec-Lévis. Ça n'existe pas encore officiellement, mais un jour, on va l'avoir. Geneviève Guilbeault qui rencontre actuellement les médias pour annoncer officiellement le lancement d'un appel d'intérêt international pour la construction d'un troisième lien. Les consortiums intéressés qui auront 30 jours pour répondre à l'appel du gouvernement. Il y aura ensuite des échanges entre Québec et les groupes intéressés pour choisir un corridor. Tout ça, ça va nous mener à la présentation l'été prochain d'un projet préliminaire. C'est ensuite de ça que les les consortiums vont être appelés à se qualifier pour le projet retenu. C'est un appel de qualification qui ne viendra pas avant 2026. Puis pour la signature de contrat, ça pourrait aller à 2027. Timing parfait pour faire une autre campagne électorale sur le troisième lien. Bien joué la CAQ. Autre week-end de fermeture complète du pont de Québec en cette longue fin de semaine de l'Action de grâce. Il sera inaccessible à la circulation automobile de ce soir à partir de 20h jusqu'à lundi midi. Des fermetures de nuit du pont de Québec qui sont aussi prévues au cours de la semaine prochaine. Et le ministre québécois des services sociaux, Lionel Carman, va visiter des commerçants de Saint-Roch dans les prochaines semaines concernant les enjeux d'itinérance. Il est engagé lors d'une annonce sur la santé mentale aux côtés de Bruno Marchand. Le Soleil qui rappelle que la SDC Saint-Roch lançait un cri d'alarme il y a quelques semaines au nombre des quelques 240 entreprises qu'elle représente. On parlait des cas de plus en plus répétés d'incivilité, de grabuge et de vol. La directrice générale Marie-Pierre Ménard qui lançait que ce sont des situations qui à terme pourraient causer la fermeture de commerce dans le secteur. Et au sport, performance difficile de Caden Primo dans une défaite de 6-4 du Canadien à Boston. Brandon Gallagher qui a marqué 2 buts, Caulfield et Anderson un chacun. Le CH qui reçoit les Sénateurs demain soir à Montréal dans la NFL. Victoire 36-24 des 49ers de San Francisco sur les Seahawks du côté de Seattle. Et toujours au football, à surveiller en fin de semaine, duel Rouge et Or Carabin demain 14h à Montréal.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
Les nouvelles sont bonnes ces temps-ci, surtout avec Max. Hein?
Oui, oui, Max qui est toujours excellent.
Excellent. C'est vrai, Max, t'es excellent. Hein?
Oui, on t'aime, Max. Oui, oui.
Tu l'aimes, Audrey. On ne peut pas te dire que tu l'aimes.
Yann, tu t'arranges pour finir le show de ça.
Aujourd'hui!
Je suspire, non?
Non,
hein?
Moi, non, c'est pas vrai. Je m'amuse un peu avec ta tête, là, mais c'est pas grave.
Mais t'aurais le droit de me le dire.
Ben oui, ben non, ben non. Voyons donc.
T'as un air de cul!
Petit chum, te le dis-tu des fois?
Oui, absolument. On se dit ces affaires-là.
Je me souviens pas d'avoir dit ça à une de mes blondes, t'as un air de cul un matin.
Mais je pense que c'est rare que je suis vraiment de mauvaise humeur, il faut me le dire. Je pense que comme tu peux pas rester fâché dans la vie, à la limite t'en ris, là.
Ouais, OK. Hey, c'est vendredi. À tous les vendredis, on a le plaisir de la recevoir en studio. C'est Mademoiselle V. Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Mais oui, ça va bien. On va parler de sujets qui sont franchement intéressants, des sujets qu'on voit parler, qu'on voit passer dans l'actualité depuis quelques semaines en ce qui touche, surtout en ce qui a trait à Puff Daddy, là,
ouais.
Qui, on savait que c'était un être un peu bizarre, mais on savait pas à quel point il l'était.
Ouais.
Là, avec tout ce qui a été révélé, on se dit, coudonc, là-bas, dans ce secteur-là, à Hollywood, dans le showbiz, ça fonctionne tout le temps. Comme ça.
Les hommes au pouvoir.
Les gars au pouvoir. Faut-tu vraiment que tu te fasses agresser pour avoir une job, pour percer dans le milieu?
Si vous vivez sous une roche, peut-être juste vous rappeler, le Puff Daddy, son procès est remis au 5 mai 2025. Il reste en prison. Là. Lui, c'est le rappeur, le producteur et compagnie. Là. Puis pendant des années, dans le fond, il a dirigé un système violent de trafic sexuel puis d'extorsion. Mais il n'est pas le seul là, à avoir fait des affaires de même. On peut penser à Jeffrey Epstein, entre autres.
Ouais.
Un super bon documentaire sur Netflix, si vous connaissez pas l'histoire. Puis c'est des questions autour, justement, du pouvoir qu'on en vient un peu à se poser. Là.
Ouais. Mais depuis que je suis jeune, moi, j'entends parler de ça... Que si tu veux monter dans une entreprise pour une femme, ben elle doit automatiquement passer par « Ah, mais elle, t'sais, elle s'est rapprochée des patrons. Ah, elle a sûrement couché avec les patrons.
Ouais. »
Depuis que je suis jeune, j'entends ça. Même affaire dans le showbiz, t'sais, on appelait ces gens-là des fois des complotistes en disant « Il y a des affaires qui se passent un peu bizarres à Hollywood. Il y a des enfants qui sont maltraités. Michael Jackson, il a sûrement fait de quoi avec les enfants. Il dormait avec les enfants. » Depuis que je suis jeune qu'on entend parler de ces affaires-là.
Je le sais. Ça fait tout le temps... On finit tout le temps par en voir popper un dans les nouvelles. À un moment donné, out of nowhere. Puis je pense que c'est R. Kelly qui est
«
I believe I can fly ».
Oui, bon. Lui.
Oui, voilà. Lui a eu, je pense que c'est lundi, sa demande de procès refusée. Fait qu'il va passer officiellement 20 ans derrière les barreaux. C'est un peu un écho de ce que P. Diddy fait aujourd'hui. Là. Puis oui, malheureusement, est-ce qu'on a besoin d'être riche pour exploiter le monde? Non, mais je pense qu'on a besoin d'avoir un entourage qui est très solide. Puis... L'aspect de M. Diddy, justement, vient du fait qu'il y a une espèce de pouvoir qui est sur plein de facettes, dans le fond. T'sais, il est producteur de musique, mais il est aussi dans la mode. Fait que, t'sais, on le voit dans tous les runway shows, les grands podiums de mode. Donc, évidemment, son influence, elle est sur plein de niveaux, comme c'était le cas pour Weinstein. Mm. On dit-tu Weinstein?
Weinstein puis Epstein.
Weinstein, OK. Ouais,
mais c'est ça. C'est des gens que c'est un passage obligé. Tu devais passer par eux pour pouvoir accéder à la popularité et tout ça. Puis il y en a qui étaient... qui étaient pas nécessairement des gens qui étaient qui voulaient se livrer comme ça à du monde, puis ils ont pas eu le choix de le faire pour devenir des stars par la suite. C'est dégueulasse.
Oui, ben honnêtement, j'ai pour préparer la chronique, j'étais pas une fan de P. Diddy, donc j'ai dû me mettre un petit peu dans ce qui se passe avec lui, puis tu sais ce qu'il fait, puis avec qui il collabore, puis tout ça, puis c'est très difficile de démentir le vrai du faux, parce que évidemment là, tout le monde part sur Justin Bieber, tout le monde part sur le fils de Will Smith, comment ça s'appelle, Jaden Smith, oui. Puis tu parlais tantôt les femmes dans l'industrie, mais en fait, ce qui arrive avec P. Diddy, c'est que c'est pas nécessairement des femmes, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes.
Oui, c'est les
gars
aussi.
Oui, c'est ça, ils organisaient ce qu'on appelle des freak-off. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est des, mais en fait, ils organisaient des parties, il est très, très reconnu pour faire des parties de fous. Alors, une fois par année, il faisait un freak-off qu'on appelle, c'est qu'il y a plusieurs paliers dans sa maison, plusieurs sections de la maison où certaines vedettes avaient accès. Puis dans une partie en particulier, ben, il y avait ce qu'on appelle des orgies, mais des orgies où il invitait des hommes travailleurs du sexe et où il prenait les jeunes femmes et les jeunes hommes en désir de vouloir devenir une star ou de vouloir signer un deal avec la compagnie de production de P. Diddy. Et là, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il leur donnait quelque chose dans un verre, un petit GHB probablement. Puis là, soudainement, ben, il se mettait à faire des choses. C'était lui qui dirigeait. En même temps qu'il dirigeait, il se masturbait. C'est quand même un peu weird. Puis il revendait...
Comme un chef d'orchestre.
Oui, c'est ça, exactement. Tout était basé sur lui. Même sa conjointe... Cassidy Ventura, je pense qu'elle s'appelle, elle a participé à ça. Fait qu'on se demande qui a participé, justement. Il y en a qui sortent l'histoire de
mais
Jay-Z.
Là, tu sors quelque chose d'intéressant. Les conjointes, c'est Maxwell, la conjointe d'Epstein, là, qu'on entend beaucoup jaser dans le documentaire.
Guylaine, ouais.
Merci. Mm. Moi, c'est l'entourage que je trouve encore plus fucké que la personne même. Tout ce monde-là qui font partie de l'orchestration de ces orgies-là, de ces actes criminels-là, du monde qui se taise, du monde qui parle pas puis qui accepte d'être témoin, finalement, pour moi, c'est des gens qui sont tout aussi coupables.
Puis qui participent. Écoute, le gars, dans la saisie de sa maison à Miami, ils ont saisi 1000 bouteilles d'huile de bébé, okay, qui agissaient comme lubrifiant. Mais là, ce qu'on a su lundi dernier, semblerait-il, c'est une avocate qui en a parlé, et elle dit qu'à l'intérieur de ces bouteilles d'huile-là, il y aurait du GHB. Et puis que ce serait absorbé en partie par notre peau. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il badigeonnait un peu tout le monde de cette substance-là. Puis avec le temps, ça finissait par les rendre insensibles, si on veut, à certaines choses. Fait que c'est quand même incroyable quand on regarde ça. Puis oui, la différence avec P. Diddy, c'est probablement parce que justement, son entourage était comme à bout, je pense. C'était too much, puis à un moment donné, ils ont comme craqué, puis c'est la différence. C'est que les autres,
Weinstein, puis Epstein,
excusez-moi si je les débaptise, là. Eux autres, c'était peut-être un petit peu plus secret, mais Diddy s'est fait avoir.
Puis ces prédateurs sexuels-là, c'est quel type de victime? C'est tout le monde qui peut se faire embarquer là-dedans?
Non, c'est ça. Bien, en fait, j'ai été vraiment très surprise en faisant mes recherches, là. 56 % des gens qui viennent du trafic humain, entre guillemets, là, sont des fugueurs à la base. Ils partent de chez eux, ils n'arrivent plus de support financier, pas d'endroit où rester dans une ville qu'ils ne connaissent pas, ont envie de devenir une star, puis justement vont s'allier avec des personnes qui ne sont pas nécessairement les meilleures. On a des caractéristiques en commun, dont entre autres les immigrés sans papier. Hein, vous ne voulez pas quand tu pars de l'extérieur puis tu arrives dans un pays ou une ville où... t'as pas tes papiers, voilà, la dépendance, que ce soit envers la drogue, l'alcool ou autre, les personnes sans domicile fixe ou sans revenu. Le plus gros, je pense, c'est surtout ne pas avoir de support familial.
D'entourage.
Ça. T'sais, dans le fond, tu te retrouves... Puis au début, là, c'est du grooming. Hein? On sait ce que c'est. On entretient un peu cette idée-là que ça va être le fun, puis je vais être gentil avec toi, puis éventuellement, mais on se retrouve à quatre pattes devant 4-5 gars, puis c'est pas ce qu'on voulait non plus au départ.
Non, puis c'est... Je lisais un article, je pense que c'est hier ou avant-hier, un chanteur de Sum 41 qui a accusé son ex-manager dans son livre qui vient de paraître, Greg Norrie, de l'avoir agressé sexuellement. Chanteur de Sum 41 qui est hétérosexuel, puis quand il a rencontré ce gérant-là, il a dit « Ben, c'est pas grave, là, dans le milieu, tout le monde est bi. » Fait que c'est pas si grave que ça s'il se passe quoi que ce soit. Puis il l'aurait agressé pendant des années et des années.
Oui, bien, c'est ça ce que j'entendais dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'homosexualité au niveau de P. Diddy puis tout ça, puis que c'était vraiment très connu dans le domaine du hip-hop, si on veut. Puis que, bon, il y aurait des trucs avec Jay-Z et tout. Bon, il n'y a rien de tout ça qui a été prouvé, là. Faut, à un moment donné, faut se demander.
Mais jusqu'à quel point, Audrey, l'attrait du pouvoir peut te faire faire ce genre de choses-là? Ouais. Que tu sois un homme ou une femme, là, parce que, tu sais, dans le cas du chanteur de Sum 41, il l'a fait quand même. Là. Il aurait pu.
Derek Whibley.
Oui, c'est ça. Je veux pas faire du victim shaming, mais il l'a quand même fait alors qu'il était hétérosexuel. Mais lui, il se faisait menacer de ne pas avoir de carrière pour s'il ne couchait pas avec son gérant.
Mais j'ai l'impression que c'est une manipulation qui se fait pas du jour au lendemain, parce que toi puis moi, on est assez lucides en ce moment, puis je pense pas qu'il y a ni un ni l'autre qui se ferait embarquer dans ce genre d'affaires-là. Là. J'ai comme l'impression que c'est vraiment sournois, puis probablement sur des mois où là, tu sais, il y a une confiance.
Avec de l'alcool
et
de la dope au travers.
Probablement. Ouais. Tu sais, puis c'est plate à dire, mais il y a de ces histoires, sans parler des plus grands puis de ceux au pouvoir. Tu sais, t'en as là, des jeunes filles qui viennent de très, très bonnes familles. Quand j'ai fait le podcast Sextape, là, j'ai rencontré Clémentine. Oui. Clémentine, c'est une jeune fille qui a déjà fait l'objet en passant là, d'un dossier là, avec Marie-Ève Tremblay de Radio-Canada. Là. Mm. Puis Clémentine, en gros, elle vient d'une famille très saine. Ses parents travaillent dans le milieu de la santé, de mémoire, puis très, très bien entourée. Puis elle, à un moment donné, bien, ça s'est fait de façon très, très sournoise. Elle s'est ramassée dans ce milieu-là d'exploitation sexuelle. Au départ, elle allait sur des sites comme Seeking Arrangement. Là, puis ouais. Tu comprends, elle cherchait juste comme un sugar daddy. Là, puis il n'y avait aucune sexualité. C'était genre aller prendre des marches avec des hommes plus vieux pour un montant. Elle faisait ça avec son ami. Il était tout le temps deux. Elle trouvait ça bien drôle parce qu'au final, tu sais, à l'âge qu'elle avait à ce moment-là, elle était quand même jeune. Tu sais, elle avait des montants d'argent qui étaient quand même assez intenses pour son âge, puis elle pouvait se gâter. Puis, tu sais, elle me parlait beaucoup des réseaux sociaux aussi à travers tout ce processus-là. Puis, tranquillement, pas vite, elle s'est fait entourlouper parce qu'à un moment donné, Yann, pour peut-être un peu répondre à la question à travers ça, bien, elle a vécu une agression sexuelle. Et là, il y a quelqu'un qui a profité de cette agression-là pour dire, bien, tu sais que si tu embarques dans mon agence, puis que tu le fais avec moi, tu vivras plus jamais ça, tu vas avoir le contrôle de tes décisions.
Ouais.
OK, bien, c'est ma façon de me protéger. Puis là, t'es déjà pas bien mentalement. Là. T'en as déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup en tête. Là. Puis là, bien, tranquillement, pas vite, bien, c'est devenu de l'exploitation puis ça a dépassé des limites pas possibles. T'sais.
Mais comment une jeune fille peut aller espérer se promener avec un bonhomme de mon âge, là? Puis se sentir en sécurité moyennant de l'argent.
Mais
c'est weird.
J'ai une amie qui l'a déjà fait au cégep.
Mais qui vous a déjà vendu cette idée-là que c'est sain, ça?
Il n'y a rien de sain, tu le
d'aller
sais.
D'aller faire une balade avec un homme sur un site web moyennant de l'argent.
Moi, la copine
chose
que j'avais, là...
Ça pue 10 km à rond.
Absolument. Mais ouais. Elle se disait... Bon, elle, l'homme pour qui elle travaillait, je vais le dire comme ça, avait genre 75 ans, puis lui, il avait besoin de compagnie. Fait qu'elle voyait aucun danger là, mais c'était des gros montants, là, des 800 $ la marche, mettons. Là. T'sais, fait que tu comprends une heure, deux heures, mettons, dans ta journée, 800 $ d'une shot, étudiante.
Hey, il n'y a pas de branlette, il n'y avait rien. Là.
Pas dans... En tout cas, écoute, j'ai perdu contact après. Là. Moi, je te parle dans les premiers moments. Je ne sais pas aujourd'hui où cette personne l'est rendue en toute franchise avec toi. Là. Mais tu sais, ça n'excuse rien, là. Mais des fois, c'est sournois. Puis
c'est graduel.
On va jouer, oui, puis j'ai l'impression qu'on va jouer probablement sur tes faiblesses. Tu sais, tu me poses la question à moi, j'ai jamais l'impression que je pourrais me ramasser dans une affaire de même. Je me trouve trop lucide.
Parce que moi, si on me demande d'aller marcher avec une femme de 75 ans, on me donne 2 000 $, j'y vais demain matin.
Ah, franchement!
15 minutes, 2 000 $ pour aller marcher?
Ben, c'est le fun, tu viens de prouver le point.
Ben, c'est ça, c'est l'appât du gain au final. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... 2 000 $ pour, ben là, peut-être 800 $ pour une marche ou whatever, peu importe ce que tu vas lui dire ou ce que tu vas la raconter, c'est quand même énorme.
Ouais.
Puis ben tu te fais entourlouper là-dedans, puis là, à un moment donné, oups, ben là, il y a un petit 1 000 $ de plus, mais il faut que je fasse juste un petit peu plus.
C'est
t'sais.
Ça. Et regarde, on va juste aller souper, c'est rien, ça t'engage à rien que t'as pas, tu vas juste venir souper là, avec moi, ma gang, c'est là, parce que, puis je te donne 3 000 $ de plus.
Exact. Pourquoi j'ai jamais rencontré de femmes d'âge mûr qui m'ont dit ça? Moi?
Va sur Seeking Arrangement, tu vas
dire
tout le monde.
C'est super difficile hein, pour les hommes. Là, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui essayait de faire ça. Va être prostituée
pour les femmes.
Pour femmes. Ben justement, procurer du plaisir ou de l'accompagnement. Mais malheureusement, on n'a comme pas besoin de ça.
Les filles, non, pas tout. Non.
On a comme... On a
mais c'est triste, par exemple, ce que tu disais. Je trouve que ça en dit long, tu sais, sur l'homme qui a un besoin de pouvoir à un certain point.
C'était un homme qui était tellement en besoin de sexualité que tous les moyens étaient bons, y compris à un certain moment d'aller voir des hommes alors qu'ils étaient tout à fait hétérosexuels.
J'en avais rencontré un, moi, à la radio. J'y ai parlé pendant 3 heures. Il avait commencé dans l'espoir, c'est ça, d'être prostitué pour femmes.
Oui, c'est ça.
Puis, à un moment donné, il se rendait compte que les contrats étaient très, très, très rares. Puis, c'est un danseur aussi. Puis, il a commencé à faire de la danse pour les hommes. Puis là, ça a comme steppé up le montant d'argent qu'il faisait par soir, ce qui faisait en sorte qu'il est devenu, même s'il était, puis ça, là, c'est le bout où j'y crois pas, là, mais même s'il était hétérosexuel, il y avait des relations sexuelles avec des hommes. Toute la machine fonctionnait, mais il se considérait encore comme hétérosexuel.
Mais moi, j'ai déjà connu ça aussi. Puis c'est parce que ça faisait faire plus d'argent.
Oui, mais je sais, mais si ça lève, c'est parce que nécessairement, tu as un désir.
Il y a des petites pilules bleues là, qui peuvent aider. Il y a une couple d'affaires là, qui peuvent t'aider à tenir
ça
de bout.
Ça demeure une relation sexuelle.
C'est la limite de mes connaissances. Je sais qu'elle existe, c'est tout.
Malheureusement, je ne peux pas t'en prescrire. Non. Mais dans le fond, c'est souvent quelque chose qui vont faire petit à petit, puis ils vont passer de l'autre côté sans même s'en rendre compte.
C'est une désensibilisation?
Oui, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné aussi, tu dis que ça lève quand même, ça demeure un moment excitant et sexuel. Hein? Les hommes, des fois, ils ont peut-être pas besoin de comprendre nécessairement tout le scénario derrière pour être excités mentalement, c'est-à-dire c'est automatique, tu sais, veut dire s'il y a un petit intérêt sexuel puis qu'il y a une relation sexuelle qui se passe devant, ben il y a des bonnes chances que ça lève malheureusement ou heureusement, selon ce que tu veux. Mais
on peut-tu le savoir d'avance que ça peut pas fonctionner parce que dans ma tête c'est impossible. Moi dès qu'il y a une barbe proche de moi, c'est non là.
Mais souvent ils sont pas là à jeun non plus. Pour être honnête avec toi.
Oui, c'est ça.
Souvent, ils vont prendre des drogues.
Ils s'aident un peu.
Ouais, se nommer un peu, là, avoir l'impression de ne pas être trop là.
Y a-t-il des impacts à long terme sur ces victimes-là? Bon, à Hollywood, on a parlé de Justin Bieber et tout ça. Puis il y en a qui ont sorti des paroles de ses chansons, qui disent « Ah, ben c'est peut-être ça qu'il voulait dire de Puff Daddy » tout ça. C'est quoi les impacts à long terme pour ces victimes-là?
Ben c'est énorme, surtout dans le cas des gens qui sont sous le domaine artistique, là, dans ce domaine-là, parce que, tu sais, dans le fond, tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font de travers va être analysé dans tous les sens. Là, j'ai vu des images de lui qui embrasse Justin Bieber sur la bouche. J'ai vu d'autres images où il offre une Ferrari. Fait que tu te dis, il y a quoi de louche, mais en même temps, on n'en est pas certain.
Ouais, Justin Bieber, là, ils ont sorti des images vidéo. Là, il faisait le tour des shows, puis les filles, puis les gars l'agressaient. Là.
Ah oui, lui, ça devait être l'enfer. Sa jeunesse, là...
Ça a été quelque chose. Puis honnêtement, là, ça m'épate pas qu'il virait un peu sur le top, là, parce que... Ouais. Justin Bieber, il faut se souvenir d'où il vient. Hein? Sa mère n'était pas dans de grands moyens.
Il s'est fait connaître sur YouTube.
Il faisait des tunes dans la rue avec sa guitare, lui-là. Là. Il a fait ça un bon bout. Puis le moment où ça s'est mis à exploser, là, c'est passé de rien à tout. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, au début, bon, c'est bien beau, c'est le fun. Là, il a sorti son One More Time, là, je pense. Là, c'était tout ça, l'album, là, en tout cas, avec Baby puis tout là-dessus. Là. Parce que j'étais bien jeune, je trippais bien raide. Tout ça pour dire qu'ils ont fait de lui vraiment...
machine.
Ben oui, une machine qui faisait triper les jeunes filles. Tu sais, moi, je me souviens, il y a une toune qu'il faisait sur le stage, Yann, là. Cette chanson-là, là, il allait chercher une jeune fille qui capotait dans la foule. Il a monté sur un petit tabouret. Là, Justin Bieber donnait une rose, puis il chantait, il donnait des petits bisous sur ses joues, là, tu comprends? Puis c'était comme... Mais tu sais, il devait faire ça pour faire plus de cash engendré, tu comprends? Que les gens soient présents, tu sais, puis faire un buzz, finalement. Là. Un moment donné, le gars, il a crashé bien raide. Là.
Ouais. Je pense que c'est quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien d'anormal dans ce qu'on lui demandait de faire.
Il dit lui-même aujourd'hui être complètement... Puis tu sais, tu parlais des impacts, c'est la santé mentale, en gros, tu sais. Dépression, idées suicidaires. Puis en plus, dans son cas, il ne peut rien dire. Il ne peut pas parler à personne de tout ce qui se passe. Donc, ça doit être encore beaucoup plus lourd parce que, dans le fond, le salut passe par le partage de ce que tu as vécu. Tu ne peux pas le partager, on oublie ça. Hein?
Réavoir confiance aux êtres humains après, ça doit être extrêmement difficile. J'avais une discussion avec une fille que Pascal Séva avait rencontrée. Elle a fait du donjon. Une dominatrice, je pense.
Oui.
Puis, elle essaie de me convaincre qu'elle était capable, dans un avenir rapproché, de rentrer en couple avec un gars bien ordinaire. Puis, que tout ce qu'elle a vécu pendant le travail qu'elle a fait, ça y reviendrait pas en mémoire. Puis, je sais pas qui on a reçu dans les dernières semaines, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était autour de 60 % des hommes en couple qui fréquentaient... C'est-tu ça, 60 %? Ouais. Ou 70 % des hommes en couple qui fréquentaient des prostituées.
C'est Émilie qu'on a reçu qui
quand
est
t'as fait ce métier-là, là, tombant en couple avec un gars ben ordinaire qui dit, ben, tu sais quoi, moi, chérie, j'ai juste une femme dans ma vie, j'aimerais que ma blonde ait juste un homme dans sa vie. Ça doit être dur de réapprendre à faire confiance à un être humain quand tu sais que tous les hommes mariés venaient te voir ou en couple venaient te voir.
Oui, puis peut-être que tu as tendance à faire confiance trop facilement aussi. Dans un sens.
Parce que tu veux beaucoup te remettre en couple avec quelqu'un de normal.
Tu veux vivre quelque chose de normal. Tu veux vivre une relation stable. Tu veux vivre. Tu vas avoir l'impression que la personne va rester une fois qu'elle a terminé ce qu'elle avait à faire. Tu sais. Veux pas. C'est ça. C'est la pression de. Puis c'est être en couple avec quelqu'un de normal quand tu es dans le domaine du travail du sexe, ben justement, ça veut dire un certain salut, tu sais, ça veut dire que tu vas abandonner ce que tu faisais avant, fait que c'est le début d'une nouvelle étape. Fait que moi, ce que je remarque souvent quand je parle à des personnes qui ont travaillé dans ce domaine-là, c'est justement, elles cherchent quelqu'un qui va pouvoir les sortir de là dans un sens.
Un sauveur.
Un sauveur, oui.
Puis là, ça devient dangereux.
Ben, ça devient dangereux parce que là, justement, tu ouvres la porte à pas mal de monde, si on veut. Puis la majorité des filles vont malheureusement tomber amoureuses d'un ancien client ou d'un client actuel. Parce que justement, lui apporte la réponse à son futur. Tu sais, on va être juste toi puis moi, puis les autres vont disparaître. Puis... Mais au final, est-ce que c'est vraiment voulu de sa part ou c'est un profiter à lui tout seul? Ça, je ne sais pas. Mais ouais, c'est effectivement, les hommes en général sont très infidèles. Puis ben, malheureusement, c'est difficile de leur faire confiance quand tu les as eus dans ton lit pendant tant d'années.
Ouais, puis en même temps, c'est dur pour des gens qui ont toujours été fidèles, qui rencontrent des filles qui ont été trahies, qui ont été abusées, d'essayer de, que ces filles-là puissent aient confiance en lui. Là. Ça doit être difficile. C'est comme un combat. En même temps, en tant que gars, tu veux-tu t'embarquer dans ce combat-là, d'être tout le temps obligé de prouver que tu es quelqu'un d'honnête, fidèle?
Ouais.
Puis là, tu te dis, mais coudonc, si tu connais son passé, je pense que tu es capable d'avoir un peu plus d'empathie, un peu plus de patience, mais si elle te le dit pas, puis elle te surveille constamment. Puis elle fouille dans ton cellulaire. Puis elle te met des petites puces à Apple là, dans ton
AirTag.
Elle te met des AirTags dans ton char.
Ça, c'est poussé, là.
Puis je l'ai mis un sur mon chat.
Elle te demande tout le temps.
Arrête.
Oui, arrête pas de se sauver.
Elle avait pas confiance en son chat.
Non. Elle allait voir ailleurs, le
chat. Tu sais, un gars qui le sait que sa blonde a été trahie, c'est plus facile d'avoir de l'empathie puis de la patience pour lui réapprendre à faire confiance
mais
à quelqu'un.
Tu dois avoir ces discussions-là.
Mais si tu dis rien, tu dois passer pour une folle, là.
Ben c'est parce que, t'imagines-tu, en même temps, tu vas y dire quoi? Tu vas y dire, hey, je suis désolée, j'ai fait l'amour avec 6000 hommes avant toi. Tu sais, je veux dire, aïe aïe, ça fait.
Fais-moi un cunnilingus.
C'est ça.
Mais moi, je vois pas d'autres options. Parce que moi, en relation, j'aime bien mieux le savoir avant tout.
Oui.
J'ai déjà vu quelqu'un dans ma vie qui était danseur. Puis, il était danseur pour faire plus d'argent. Il était danseur dans un bar homosexuel du côté de Montréal.
Mm-hmm.
Puis, une des premières discussions qu'on a eues, là, quand on commençait à se voir un peu plus, là, c'était celle-là. Là. Il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. Je me suis dit, on était dans le sous-sol chez mes parents. Il faut que je te dise quelque chose. Et là, il me dit ça. Moi, je suis danseur nu.
Puis, il n'est pas juste danseur, probablement.
Non,
là,
puis il fait aussi de la porno. Il fait aussi de la scène. T'sais. Puis, il dit, je fais des affaires un peu particulières qui m'amènent un peu plus de sous.
Puis quand tu sors le soir, il y a une ligne de 14 filles à la porte. Là,
non, mais
c'est des gars. C'est
un très beau bonhomme.
C'est
sûr. Ça a rien donné. mais le point est que... Ça n'a rien donné anyway, si ça peut rassurer. Mais le point est que...
C'est-tu là que tu avais acheté une cargaison de gel aseptisant? Hein?
C'est à cette époque. Non, mais c'est important d'en parler. Parce qu'imagine que tu développes une relation, puis au bout de 6, 7, 8 mois, tu es avec cette personne-là, tu tripes bien raide, puis à t'apprendre quoi de gros de même sur son passé, je sais pas. Tu sais, c'est important.
Puis en même temps, tu acquiers beaucoup d'expérience. Tu fais ce type de métier-là, tu acquiers beaucoup d'expérience, puis tu te ramasses avec un gars ou une fille ordinaire qui a eu 2-3 partenaires dans la vie. C'est-tu facile de dire à quelqu'un, écoute, t'es poche au lit, ça se dit-tu, ça?
Ouais, ben.
T'as-tu déjà dit, Audrey?
Je pense que j'ai jamais dit ça à quelqu'un.
Puis c'est-tu déjà arrivé?
Mais il faut.
Ben, c'est parce que là, rendu là, ça dépend encore, c'est une question de relation. Si tu le sais que t'as pas de relation sérieuse avec cette personne-là, ça vaut pas la peine
de dire qu'on parle de purement sexuel. Là,
mais là, parce que, c'est
t'as-tu déjà faké?
Ben là, oui.
Elle l'a dit, l'autre fois. Ben, t'en souviens pas?
Oui.
Moi, j'ai retenu ça.
Petite menteuse.
Mais non, mais
toi, t'as-tu déjà faké?
Ben oui, souvent.
Puis tu penses-tu que... Bon, j'ai pas eu...
La majorité des filles le font.
Pas eu bien des partenaires dans ma vie, mais tu penses-tu qu'il y a déjà une fille qui a faké avec moi?
Sûrement.
Mais non, mais Yann, c'est arrête, là. Toi aussi, t'as sûrement déjà faké, là.
La majorité.
Ça m'est arrivé une fois.
Ouais, il l'a dit ça aussi, je m'en souviens.
Est-ce qu'on s'écoute pas, hein? Je suis en train de me rendre compte, là. Ouais, c'est vraiment de mémoire notes, de tata.
Mais non, mais oui, ben, c'est normal pour les femmes de faker hein? Yann. Oui, parce que, dans le fond...
Mais c'est parce qu'elles m'ont toutes dit que j'étais le meilleur.
Ouais. Ben,
t'es
écoute...
T'es en train de me dire que c'était peut-être pas vrai, puis vous dites ça à tous les gars, c'est
non,
ça?
Non, ça concerne pas toi, ça.
Okay.
Toi, t'es à part.
OK, merci.
Là, on parle de l'homme en particulier.
Confiance revient.
Non, mais c'est très difficile pour une fille d'avoir à dire ça. Mais en même temps, quand, mettons, t'es en couple, puis tu l'aimes, le gars. Okay? Mm. Tu sais que t'as un avenir avec lui, puis tout. Mais maudit, en dessous des draps.
C'est dur.
Il me semble qu'il y aurait de quoi qui manque, là. Puis comment le dire sans que ça fasse de peine à la personne? T'sais?
C'est tough.
Mais pas juste la peine, mais aussi les impacts que ça va laisser. Parce que moi, en tant que conseillère en sexologie, je reçois ces hommes-là dans mon bureau après qui me disent. Ma blonde ou ma femme vient de me déponter raide. Ça a l'air que je suis pas bon au lit puis j'ai aucune idée quoi faire avec
mais
ça.
Mais ça, là, c'est-tu vraiment que t'es pas bon au lit ou que t'es peut-être pas compatible? Puis là, je rentre dans des affaires de grosses théories par rapport, là, mais t'as-tu déjà entendu parler, Yann, des schémas sexuels?
Ouais.
Hein?
Ça te dit-tu quelque chose, les schémas sexuels, ou ça te dit rien pas en tout?
Non.
Non. Non, mais il y en a cinq, je pense, des schémas ouais. sexuels. Un peu comme les cinq langages de l'amour, le même principe. Ouais, là. Mais le point est qu'il n'y a personne qui a les mêmes envies. On le sait que les gars sont plus sexuels. Nous autres, il faut qu'on chauffe le poil un peu plus. T'sais, fait que ça peut-tu juste des questions de technicalité des fois? Fait que ça vaut pas toujours la peine d'engager ces conversations-là. Mais si t'es pas né que cette personne-là parce que tu l'as mariée,
Non, ça vaut la peine. Je veux dire, non seulement ça vaut la peine, mais c'est ta responsabilité en tant que moitié du couple de dire quand il y a quelque chose qui ne va pas puis de ne pas le laisser s'accumuler. Mm. Faut juste que tu saches comment le faire. Puis tantôt, tu parlais des schémas sexuels. Moi, pour rendre ça plus simple, j'ai isolé trois types d'amants. Là, ici, on parle au masculin, pour aujourd'hui, madame. Mm-hmm. Donc, le premier étant, puis tu pourras me dire, Audrey, si tu l'as déjà pogné, ce type-là, le type hésitant. Okay. Dans le fond, c'est une personne qui n'ose pas nécessairement par peur, hein, puis qui ne veut pas que son image qu'il renvoie au lit soit trop crue. Il va être quelqu'un qui va respecter énormément la femme puis qui n'osera peut-être pas aller vers des choses qui sont
ouais.
out of 3X.
Mais ça, au début, c'est un peu normal.
Non, mais quand je parle de « t'es en couple avec quelqu'un », okay, ça fait, okay. fait, mettons, quelques mois ou quelques années que vous êtes ensemble.
Parce qu'au début, y aller plus soft, c'est juste normal.
T'es après en apprentissage.
Ça, tu t'ajustes en discutant avec elle.
C'est ça. Mais il y a un profil de type d'homme comme ça qui est incapable d'aller dans le « dirty » un peu. OK? Ça, c'en est un. Ensuite, le profil... inexpérimenté.
Ouais.
C'est celui qui n'a pas eu d'expérience sexuelle, qui n'a eu pas beaucoup d'éducation sexuelle, en gros, puis qui est hésitant à aller dans un sens. Mais peu importe ce que tu vas lui dire, ça va être difficile pour lui de le visualiser parce qu'il n'a pas d'expérience, tout simplement. Puis le troisième, qui est celui qu'on voit souvent, l'égoïste. Hein? Celui qui va baser ses performances sur ses pulsions sexuelles à lui.
Ça, c'est une bonne majorité, là.
Mais c'est pour ça que je dis... Dans le fond, on peut avoir un peu des trois, là.
On les salue.
Ben oui, on les salue.
Dans le fond, lui comprend pas pourquoi t'es pas heureuse, parce que lui est satisfait de ça. Puis c'est quelqu'un qui va beaucoup imiter les comportements 3X sur les films pour adultes, puis qui a besoin aussi que tu t'exprimes fort, qui a besoin que tu t'ailles l'air d'avoir du plaisir.
Une bonne chanteuse.
Oui, c'est ça, quelqu'un qui aime les faire des vocalises, on peut dire ça. C'est quelqu'un qui est peu à l'écoute, puis qui est peu enclin au changement, tu sais. Fait que ça, c'est un peu comme les trois profils... différents d'amants, puis ben comment diriger ça pour lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il soit un petit peu moins égoïste, un petit peu plus hésitant, ou c'est très, très difficile, puis ben j'ai mis ça sur papier, j'ai mis une couple de règles.
Moi, je peux-tu prendre la part des gars un peu, là?
Ben oui, tu peux, certainement.
Parce qu'une fille qui fait en sorte de détruire son homme pour que son homme se ramasse dans ton cabinet pour te dire hey, « je suis défaite, ma blonde dit que je sais pas faire l'amour, puis j'y fais pas plaisir », j'ai l'impression qu'elle prend le problème à l'envers.
Mais c'est parce très que facile un dans
gars,
un sens.
Un gars, c'est pas compliqué, ça se connaît, c'est génital. Mm-hmm. Une fille, c'est psychologique et génital aussi, puis vous autres, vous avez quelque chose de complexe, vous avez comme plusieurs pitons là, à différents endroits. Là.
Ouais.
Je pense que pour elle, il faut qu'elle se connaisse en premier, puis par la suite, elle sera en mesure de juger si son partenaire est pourri ou s'il est excellent.
Mais c'est mon point numéro un, c'est vraiment ça, c'est que dans le fond, tu vois, hey, Seigneur, il faudrait que tu fasses ma job, je vais t'engager.
Là, il est fier.
Dans le fond, c'est que tu sais même pas, tu sais, des fois, j'ai des femmes qui vont me dire, oui, mais il est nul au lit. mais il n'est pas nul. Faut que tu mettes des mots sur ce que tu veux puis ce que tu as besoin. T'sais. Il faut que tu sois capable de dire à ton chum, j'aime ça quand tu fais telle chose, j'aime pas ça quand tu fais telle chose, j'aimerais que tu fasses telle chose. Puis si tu n'es pas capable toi-même de mettre des mots dessus, c'est possible que c'est parce que tu ne te connais même pas toi-même.
Exact.
À ce stade-là, il va falloir ressortir le miroir puis le dildo, puis il va falloir regarder un petit peu. Il y a des femmes qui ne savent même pas comment ils font leur vagin à l'intérieur. Je veux dire, prenez un miroir, accroupissez-vous, faites votre job de détective, là, connaissez-vous comme il faut, puis après ça, on pourra parler au conjoint.
Je suis contente de ne pas être une fille et être obligée de faire ce test-là à me regarder avec un miroir.
Ben, je veux dire, ouais.
Tu veux-tu vraiment que quelqu'un t'en regarde sous cet angle-là?
Ben, t'as comme pas le choix. Tu sais, si tu regardes des graphiques sur Internet, ça marche pas. Non, c'est vrai que c'est pas.
Je
le
souhaite pas à personne.
C'était comment cet épisode-là, Audrey?
Je le souhaite pas à personne.
Mais oui.
Je me souviens, il avait fait faire ça. C'était Occupation d'eau. Dans une émission de même, ouais. Là, il demandait aux filles, non, je pense que c'était Too Hot to Handle, de se regarder avec un miroir.
Ouais.
Il mettait ça autour des filles sur la plage, puis toutes les filles en même temps devaient regarder leur entrejambe, puis dire ce qu'elles ressentaient.
Ouais.
T'es entouré de 10 personnes.
Ouais,
imagine!
Je le conseille peut-être plus de le faire c'est dans ça. L'intimité.
Ben.
Mais la base, c'est de se connaître, puis après ça, informer sa partenaire ou son partenaire des choses qui peuvent plus aimer que d'autres. Puis ce que t'aimes pas aussi. Il y a des gars qui vont faire des affaires que des filles aiment pas, puis le contraire est aussi vrai. Là. J'ai déjà entendu des histoires d'horreur, puis c'était surtout des histoires de premier soir, là, Mademoiselle V, où la fille, tous ses anciens partenaires aimaient ça, les doigts dans le péteux. Puis lui, ben, il est un peu comme moi, c'est là où le soleil va pas, tu peux pas y aller.
Ouais.
Mais elle s'était permise d'y foutre ça là. Je veux dire, le gars, il s'est senti micro-agressé. Là.
Ben oui, je comprends. Ouais. Ouais. Non, c'est quelque chose qui est très, très différent. Puis tu sais, des fois, les gens me disent, « Ouais, mais là, ça va pas bien au lit, il fait des choses que j'aime pas, ou je fais des choses qu'il aime pas. » Et est-ce qu'il faut se quitter? Non, pas forcément. Je veux dire, à un moment donné, c'est le travail de chacun de le dire, puis c'est le travail de chacun de communiquer au jour le jour. Bon, il y a un timing pour le faire, là, tu sais, je veux dire.
Mais comment t'amènes ça, mettons? Parce que c'est vraiment touché, là. Même si t'aimes ton chum, ta blonde, vous vous connaissez bien, vous n'êtes pas gênés un envers l'autre. Je me vois pas demain matin dire à mon chum, hey, excuse, là, faut qu'on s'assise sur le divan, faut qu'on jase. J'aime pas ce que tu me fais.
Non.
T'sais, c'est poche.
Mais
comme...
c'est mieux s'asseoir sur le divan que par texto. Là.
Ah, mais là, c'est on s'entend.
Ça, ça fait partie de mes règles. J'en ai identifié à peu près 5. Là. Texter, courriel, c'est non. Premièrement, là, ça, même, peu importe avec toutes les émojis du monde, puis des petites émojis d'aubergine, puis de petits bonhommes qui sourient, ça ne change rien. Ça porte à interprétation. Mais qu'on ne fait pas ça. Une deuxième chose qui porte à interprétation, puis tu en as parlé tantôt, c'est la simulation. Si une fille simule son plaisir de A à Z, non, jamais. Si jamais une fille simule son plaisir de A à Z, comment est-ce que lui peut savoir qu'est-ce que t'aimes ou pas?
Très bon point.
Parce que pour lui, c'est toujours parfait. Dans le fond, tu sais, t'as l'air d'avoir du plaisir. Fait que pour les filles qui ont des problèmes au lit comme ça avec leur conjoint, il va falloir cesser de simuler. Il va falloir lui en parler. Il va falloir lui expliquer pourquoi est-ce qu'on simule. C'est pas nécessairement parce qu'il est très mauvais. C'est parce qu'on est conditionné à faire ça.
T'es-tu obligé de le dire que tu simules? Tu peux dire, hey, j'aime vraiment ça, mais j'aimerais ça un moment donné atteindre l'orgasme. On peut-tu l'essayer ensemble, mettons?
Si t'aimes pas ce qu'il te fait, faut que tu le dises. Parce que sinon, je veux dire, c'est acte et conséquence. Je veux dire, lui, il fait qu'en tant qu'acte, t'as du fun. Il faut que tu lui dises que t'as pas de fun. Est-ce que ça veut dire que t'es obligé de lui dire tout ce que tu fais est poche?
Mais tu peux faire l'effet sandwich.
Hein?
L'effet c'est nouveau,
c'est,
ça.
Non, mais c'est pas sexuel, c'est une technique.
OK.
Tu dis quelque chose de positif, après ça, tu amènes ton négatif, tu niques quelque chose de positif.
Exactement. Je pensais qu'on était rendu à 69 positions. 70 positions, le camastro, vous aviez de tout scraper.
L'effet sandwich, non.
Deux positifs pour un négatif.
C'est ça. J'aime vraiment quand tu me caresses, mon amour, ça m'aide à être excitée, par exemple. Quand tu descends en bas, ça me fait stresser bien raide.
Ouais.
Mais j'aime vraiment ça, par exemple, quand tu fais telle affaire. Tu sais, fait que tu comprends le message, mais je t'enrobe aussi.
Manipulatrice.
Non, mais c'est une technique carrément d'entreprise. Oh, ça,
deux positifs pour un négatif, puis tu parles, tu dis, on parle au jeu. Okay? Ça, on dit ça tout le temps en thérapie, hein, c'est fatigant, on l'entend tout le temps.
C'est vrai,
mais
hein?
Il faut que tu sois capable de dire ces trois choses-là. Je ressens, 3 points. J'aime, 3 points. Puis je voudrais essayer, 3 points. Si tu es capable de partager ces 3 choses-là avec ton conjoint, en général, ça devrait s'améliorer. T'sais. Si t'es pas capable de le faire, ben là, à ce moment-là, il faudrait peut-être consulter.
OK, je t'amène autre chose maintenant.
Vas-y.
Si, parce que ça doit être comme ça le trois quarts du temps, parce que ça fait mal à l'ego. Là. Moi, je me fais dire demain matin que t'aimes pas les pratiques sexuelles qu'on a ensemble. Honnêtement, même si j'ai pas beaucoup d'ego, ça se peut que ça fasse en mauvaise place.
C'est pire pour
comment
l'homme.
Tu gères ces réactions-là? Parce que c'est sûr que ça crée un froid, là.
Bien, il faut éviter de créer ce froid-là. C'est pour ça qu'il faut prendre le bon timing puis aller selon des règles. Mais si jamais la réaction est quand même forte chez la personne, bien, c'est signe que probablement la personne manque de confiance en elle dans un sens. T'sais. Puis qu'il y a peut-être quelque chose dans le passé qui l'a blessé. Il y a peut-être quelque chose aussi qui ne dit pas. Fait que moi, à ce moment-là, si la réaction est démesurée puis qu'il se sent vraiment attaqué dans sa virilité, là, je vous dirais de consulter. Parce que des fois, c'est juste qu'on ne parle pas le même langage. T'sais. Peut-être que quand elle dit j'aime ça quand tu fais ça, mais j'aime pas quand tu fais l'autre. Lui, il retient seulement de j'aime pas quand. Mm. Tu comprends? Fait que de parler le même langage, c'est important. Bien, sinon, le mieux, c'est d'éviter cette réaction-là. Puis je vous le jure, les hommes sont très sensibles là-dessus. La sexualité, pour eux, c'est une performance qui est reliée à leur virilité. Dans la majorité des cas, ça devrait pas l'être, mais c'est comme ça. Donc, automatiquement, quand tu dénonces un point négatif, bien, veux pas, ça attaque l'homme dans sa virilité.
Quand ils ont des références, c'est possible de ne pas les nommer? J'ai vu un podcast sur YouTube où la fille détruit carrément le gars qui est avec elle, qui est son conjoint. Ouais. Il parle de sexualité, tout ça, puis elle dit « Mon chum m'a jamais fait donner d'orgasme. » Parle, genre, tout le monde rit, tout le monde est mal à l'aise en disant « T'es peu, là, tu lui dis ça, là, puis il savait pas, il était pas au courant qu'il t'avait jamais donné d'orgasme, et tout ça. » Puis elle dit « Ouais, mais avec... c'est une affaire de d'acteur porno. Ouais, mais avec Jesse, un tel, je l'ai eu, mon orgasme. » Ouais. Le gars était totalement détruit.
Oh, ouais. Seigneur. Puis ça, l'affaire, c'est qu'il n'est pas juste détruit avec toi. Hein. Tu viens probablement de le détruire pour les 8 autres qui vont suivre. Là.
Exactement. Les filles, on n'a pas l'idée à quel point est-ce que ça fait mal. Ça laisse des traces. Puis ça laisse des traces pour les autres qui vont suivre. Mm. Fait que c'est important. T'sais. Puis je dirais qu'une des choses les plus importantes là-dedans, c'est le timing. Okay? Pour éviter de le blesser dans sa virilité, là, n'ayez pas une discussion pendant que ça se fait. Okay. Évidemment, tu peux diriger sa main. Hein, tu peux lui dire, va ici, j'apprécie quand tu fais ça. Mais vas-y pas. Ah non, ça, j'aime pas ça. Là, tasse-toi.
Ça pète le mood. Là, ouais.
Ça pète le mood, puis ça va y rester dans la tête. La prochaine fois qu'il va essayer, il risque d'avoir des difficultés érectiles qui vont s'implanter. Donc, on ne veut pas ça. Puis, fait que le timing est vraiment très important. Puis, tu sais, moi, là, j'ai une chose dont je dois vous parler. Là. Un outil qui est extrêmement le fun là-dedans. Ça s'appelle les workshops sexuels. On s'oblige ça une fois par semaine. Okay? Puis, on fait des brochettes. Et là, attendez, sortez pas le poulet puis les poivrons.
C'est ça, de quoi tu
ni
parles?
Les voisins d'à côté. C'est-à-dire que l'amour, le sexe, c'est comme plein d'affaires dans une brochette. Tu comprends? Ça comprend un cunnilingus, une fellation, embrasser, un chatouillé, bon, appelle ça le doigté, peu importe. Fait que ça devient une grosse brochette de plein de choses. Le but étant de décortiquer la brochette une fois par semaine. Fait que de prendre, par exemple, un acte sexuel comme le cunnilingus, puis de le retirer puis d'analyser cette partie-là, puis de faire un workshop les deux ensemble. De dire, OK, là, on part sur le cunnilingus, on explore différentes façons de le faire, on regarde qu'est-ce qui se fait ensemble, puis on en jase pendant qu'on le fait. Fait que ce que ça fait, c'est que ça permet au gars d'analyser chacun de ces actes-là puis de comprendre ce qu'il fait pas de correct tout en ne pitchant pas ça d'en face à coup de 500 affaires. Tu comprends?
Non, mais c'est pas mauvais pantoute, même que c'est une approche qui est plus positive. Là.
Oui.
Val, je trouve ça le fun, ce genre de sujet-là, parce qu'on a des textos qui entrent où on te demande tes coordonnées, comment te rejoindre, parce que, bon, il y a des gens peut-être qui l'ont déjà senti ou qui sont mal par rapport à ça.
Absolument.
Tu reçois-tu des couples aussi ensemble? Parce que c'est la question qui était posée par texto. Là.
Énormément. Oui, c'est ma spécialité. Ça, l'addiction à la pornographie, puis tout ce qui est communication en couple. C'est quelque chose que je travaille beaucoup. L'orgasme chez la femme, les difficultés orgasmiques, c'est quelque chose que je travaille
aussi. Comment on te rejoint, Mademoiselle V?
Bien, on va sur Google, là. C'est encore la meilleure façon. Mademoiselle V, on ne l'écrit pas mademoiselle, on l'écrit M-L-L-E-V. Puis vous rajoutez auxiliaire sexuel. Bon, auxiliaire sexuel, c'est pas vraiment mon titre, là, mais c'est comme ça depuis des années. Alors, on va laisser ça de même. Tapez ça sur Google, puis vous allez tomber sur mes différentes plateformes. Puis bien, vous m'envoyez un courriel, puis en général, on est capable de vous aider dans ce... Juste vous. Comme si on était 42, Mademoiselle V. Je suis capable de vous aider. Puis si je ne suis pas capable, je vous le dis, puis je vous réfère à quelqu'un qui peut le faire.
C'est toujours un plaisir de te recevoir. On se rejase vendredi prochain, chère
amie. Ah oui? OK, good.
Merci beaucoup. Bye.
Le garage à Dan. Dan Garon a fait chaud.
Comme à chaque vendredi, on a 50$ à faire gagner aux fromageries Victoria. Puis on vous pose un dilemme. Faut jaser en nombre. 780-1021. 780-1021. Si vous voulez participer à ce fameux concours des fromageries Victoria, 50$ à gagner. Moi, la mienne, c'est Galvaude, extra fromage, extra saucisse, sauce piquante, que Pascal CV a renommé la petite cochonne.
Ah, c'est tellement bon. Ouais. Moi, la
dis pas ça à la fille à la caisse, en passant.
Celle que j'aime prendre, moi, c'est la italienne. Je trouve que leur sauce à spaghetti est à se jeter à terre. J'en achète des pots de temps en temps pour que j'ai pas le temps de faire la mienne.
Ouais, est-ce cher?
Non, elle est pas si pire, pour vrai. Non, moi, je la trouve très raisonnable. Puis elle est vraiment bonne. Tu sais, des fois, tu sens, mettons, que la viande est moyenne. Ou, ouais. Non, elle est solide, leur sauce à spaghetti.
Hey, c'est la huitième succursale de la fromagerie Victoria à Québec.
C'est hot, hein?
Place de la Cité, l'ancien McDo. Mm. Ils ont fait une fromagerie Victoria, puis c'est eux qui nous donnent le 50$. Fait qu'on va vous poser la question, en fait, on va vous poser le dilemme, puis ça me prend des réponses songées là, ou humoristiques.
Oui, bien, tu sais, en fait, choisissez votre position puis expliquez-nous pourquoi. Fait que 780-1021 pour 50$ à la fromagerie Victoria, voici le dilemme, OK?
En passant, c'est moi qui l'ai trouvé.
Oui, c'est juste que Yann a de la misère à l'exprimer en ce vendredi que je vais l'aider.
Moi, c'est plus un questionnement.
Oui, c'est ça. Mais là, pour un dilemme, il faut quand même un saut, ça, tu sais. Donc, il y a un bateau. Vous êtes 5 personnes sur le dit bateau. Le bateau coule. Il y a une chaloupe. Il y a juste 4 places dans la chaloupe. Et là, il n'y a pas d'affaire de « oui, mais on va le coucher sur le top puis on va le... » Non, non, non. Il y a 4 places dans la chaloupe.
Exact. S'il y en a 5 dans la chaloupe, la chaloupe, elle renverse.
C'est ça, ça marche pas.
Fait qu'on arrête à 4.
Est-ce que tu laisses ta place ou t'embarques dans la chaloupe pour sauver ta vie?
Et pourquoi? OK. Là, il n'y a pas de « ouais, mais à moins que… » Y a-tu des enfants?
Non, mais là, ça,
femmes?
C'est facile. Hein? C'est ça, c'est… Non, il y a 4
humains.
Les filles
se battent depuis plus de 50 ans pour l'égalité des sexes. Il n'y a pas de question de les femmes et les enfants d'abord.
Il y a 4 humains, OK?
4 humains.
Vous êtes 5 humains sur le bateau, il faut en sauver 4.
On y va avec le premier, 780-1021. 780-1021. Allô, Boulevard.
Salut.
Salut. Bon, t'embarques-tu ou pas dans la chaloupe, puis pourquoi?
Bah non, j'embarque pas.
T'embarques pas?
Hein?
Pourquoi?
Ah non. Ah, parce que de toute façon.
À quel point t'es à bout?
Ben, pas à bout, mais j'ai tout le temps mal au ventre, mais il m'a pété, il m'a dit, hey, malgré que je vais en tuer un avec mon odeur.
C'est original.
Ouais, ouais.
Fait que
tu laisses ta place.
Des LCV. Oh, ouais, oui, mais ça dépend, on est où, là? Je suis sur une île déserte, on décolle, y a-tu.
T'es en plein milieu de l'océan, ouais. Là. Y a rien, là. Tu sauves ta vie ou t'as sauves pas pour laisser ta place à d'autres humains.
Ah, je vais en laisser. Ben oui.
OK. Ben, oui. Ton prénom,
ça
c'est quoi?
Ça va me revenir, m'embarquer sur le dos d'un dauphin, m'a me sauver avec le dauphin.
Ah,
là.
C'est pas pire, c'est original. Ouais. Ton nom, c'est quoi?
C'est Benoît.
C'est Benoît, OK. Ouais. Reste à l'écoute, puis dans les prochaines minutes, je vais annoncer si tu gagnes ou pas, OK?
Parfait, merci.
Et jusqu'à maintenant, t'es le seul qui appelle, fait que t'as plus de chance que les autres.
Ça. Je peux-tu rappeler puis me faire passer pour un autre Benoît?
Faut que tu changes ta voix.
C'est ça, l'affaire, ça s'en vient compliqué, Ben. Là. Tu peux essayer.
OK, c'est bon.
Salut.
Essayer.
780-1021. Voilà. Allô, Boulevard, c'est à toi. Allô, Boulevard, c'est à toi.
Oui, moi aussi, je laisserai ma place.
Pourquoi?
Parce que moi aussi, au lieu de prendre un dauphin, je trouverais une belle petite sirène qui pourrait me faire respirer puis avoir un bête fort.
Mais voyons donc, les gens sont ça. OK.
Ton prénom, c'est quoi?
Francis,
c'est okay. Bon ça. Quand on garde ton nom pas loin, tu
rappelles. Écoute encore quelques secondes, puis on va te dire si c'est toi qui as gagné, Francis. Fait que là, on a Benoît.
Pas de problème. Merci.
Salut, bye-bye. On a Benoît,
Gina,
Francis,
Benoît.
Tina. Allô, Boulevard.
Salut.
Salut. Est-ce que tu laisses ta place ou tu prends place dans chaloupe?
Je prends place parce que moi, j'ai des enfants, puis je veux continuer à être là pour eux autres, puis je veux les voir grandir.
OK, c'est quoi ton nom?
Raphaël.
OK, Raph. Puis mettons que les gens avec qui tu es sur le bateau, là,
ils ont
des
enfants aussi.
Ouais.
Bon, moi, je prends pas ça.
Tes enfants, à toi, sont plus importants que les enfants des autres.
Tu t'assumes, c'est bien correct.
Ça fait quand même jeune, fait que je les vois grandir.
Merci, Raph.
Merci.
Bye.
Ensuite de ça.
Allô, Boulevard. Oh, OK.
C'était trop stressant. Toi, tu fais quoi?
Moi, j'écoute, je me suis même pas posé la question. Je te dirais, un plat, ça dépend. Je regarderais l'âge des gens qui sont avec moi. Puis si je suis le plus vieux, je les laisse partir. Ça, c'est la réponse super sweet. Mais la vraie réponse, c'est que si je peux avoir la crise de paix sur le bateau, ils peuvent bien coller ça le cas, je m'en sac.
Oui, mais le bateau, il coule, Yann. Tu vas mourir.
Ouais. C'est pas grave. Ils seront pas là.
Il dit, va mourir en paix.
Elle va mourir en paix. Allô, Boulevard?
Salut, ça va?
Ouais, t'embarques-tu dans la chaloupe ou tu restes sur le bateau qui coule?
Moi, j'embarque dans la chaloupe, mais je suis tout seul à embarquer. Les autres, ils restent quatre dans l'eau.
Ah, OK. Bon, OK. C'est ton prénom, c'est quoi?
Oui, c'est Max.
Merci.
Max. Fait
reste
Max,
là, Max.
Max tue quatre humains et part dans la chaloupe seule.
Oui, oui, oui. On va garder son numéro. On a peut-être un potentiel psychopathe. Allô, Boulevard?
Oui.
Oui.
Moi, j'embarque dans la chaloupe, moi aussi, ça dépend. La belle-mère est là, c'est elle qui reste sur le bateau.
Ça dépend où la belle-mère va.
Oh, les couteaux volent bas.
Ah, on la salue. Salut. Ton prénom, c'est quoi?
Frédéric.
Bon, OK. Fred, garde ton nom de côté.
Reste à l'écoute. Je l'aime bien, moi, la belle-mère. Ah, je l'aime bien. Allô, Boulevard?
Allô?
Salut.
À qui on parle?
Yes. Hey, c'est Simon.
Salut, Simon. Tu fais quoi, hein?
Hey, écoute, si ça se trouve, j'ai gagné une poutine chez Fromagerie Victoria, faut que j'aille la chercher, fait que j'embarque dans la chaloupe.
Oh! Hey, c'était intelligent, ça!
Ouais. Ouais, lui, il me fait suer. Il a tout le temps des bons arguments.
Hey, mais c'est pas pire, ça! OK. Mais Simon, j'aime bien.
Hey, Simon, reste là. Le gagnant va se dire dans 10 secondes, c'est Audrey qui choisit. Fait que si vous avez des réprimandes, c'est à Audrey. Vous chanterez, vous, il chanterait des bêtises.
Peux-tu choisir maintenant?
Oh, ouais. Hey, Simon, reste là, s'il te plaît. Oui, Audrey?
Ben c'est parce que j'aime bien Simon.
C'est Simon?
Mais non, attends qu'on jase entre nous autres. Moi, Simon, je l'ai trouvé intelligent.
OK, Simon reste en ligne. Audrey va prendre tes coordonnées.
Il n'a pas le choix de prendre le bateau. Il faut qu'il ait mangé sa poutine.
Ouais.
Simon, t'es-tu là?
Mais j'aimais bien le psychopathe, moi.
T'aimais le psychopathe?
Ouais.
Ben là, il tue du monde, Yann. Tu peux pas lui faire manger une poutine. S'il veut tuer quatre personnes, il est égoïste.
Ouais, puis l'autre qui attend de voir où sa belle-mère va aller.
Ça, c'était pas pire.
Je l'aime bien aussi.
Veux-tu réfléchir?
Fait que c'est Simon. Non, c'est Simon.
Moi, j'aimais bien Simon.
OK. Ben,
Simon, es-tu encore là?
Simon, t'es-tu encore là? Oui, il est encore là.
Simon, tu gagnes 50 piastres à la fromagerie Victoria.
Ah, t'es malade, ça.
On part dans le bateau.
Reste là, Simon. Bon vendredi. Hey, tu t'en vas en congé deux semaines, toi?
Oui, je pars en petite vacances.
Fait que je vais m'ennuyer. Les auditeurs vont s'ennuyer. Qui va te remplacer, on sait-tu?
C'est Hello Derry, de ce que j'ai compris, qui allait venir prendre place dans l'open mic.
Alors, j'espère qu'il y aura plus de patience que toi.
Non!
Mais bonnes vacances. Amuse-toi, cher ami, puis passe du temps avec toutes les gens que t'aimes, puis au plaisir de te revoir dans quelques jours.
Je vais te revenir en forme.
Salut, mon ami!
Salut!
Bye! On se laisse là-dessus, nous autres. On se rejase tout de suite après ça. Pascal CV qui s'en vient. Une autre qui me quitte. Pour des Italiens.
Ben oui.
Ouais, dans quelques jours.
Elle c'est peut-être un message, hein? On est deux à te quitter en même temps.
C'est tout le temps pour des plus riches, jamais pour des plus beaux. Allez, on revient.